RCF.
Nous entendons souvent parler de l'héritage génétique que nous recevons de nos parents et ancêtres, mais savons-nous que nous recevons aussi un héritage psychologique ? Ce legs invisible à l'œil nu s'exprime à travers l'histoire de nos familles, dont nous sommes un des maillons dans la chaîne des générations. Même si nous ne connaissons pas tous les personnages de notre arbre généalogique, leurs traces subsistent en nous à travers des secrets, des non-dits, des allusions transmises par nos parents. Ces liens transgénérationnels exercent sur nous une influence qui nous pousse à répéter des situations agréables ou des événements plus douloureux. Et lorsque nous souffrons, nous pouvons partir en quête des fantômes qui nous hantent. Les fantômes familiaux, c'est le titre d'un livre passionnant qui vient de paraître aux éditions Payot, signé de Bruno Clavier, qui pratique ce que l'on appelle la psychanalyse transgénérationnelle. Bruno Clavier, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui caractérise votre pratique de la psychanalyse ?
Ce qui caractérise par rapport à ce qu'on pourrait appeler la psychanalyse classique, c'est que quand on travaille en psychanalyse transgénérationnelle, on s'occupe de deux inconscients. Il y a l'inconscient d'une personne et dans son propre inconscient, comme enclavé, il y a l'inconscient de ses ancêtres. C'est-à-dire que quelqu'un va être tributaire de son enfance, de tous les aléas à partir du moment où il est dans le ventre de sa mère jusque... Et puis surtout tout ce qui concerne l'enfance, mais également de tout ce qui est arrivé à ses ancêtres. Donc c'est comme s'il y avait deux inconscients et on tient compte des deux inconscients. Voilà.
Très rapidement, rappel de ce qu'est l'inconscient.
Alors l'inconscient, bah, comme ça le dit, c'est inconscient, donc on ne le voit pas. Quelque part, on peut dire que l'inconscient, c'est l'infantile. C'est-à-dire que l'inconscient, c'est ce qui se constitue dans les premières années jusqu'à 6-7 ans à peu près. C'est ça l'inconscient. Et puis il y a quand même ce qu'on appelle la barrière du refoulement et qui fait que quelque part, l'inconscient va rester donc inconscient. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a plusieurs inconscients. On a le sien et celui, par exemple, de ses parents en nous.
Alors, dans ce contexte, comment définir ce que vous appelez, vous, un fantôme dans l'arbre généalogique ?
Alors, un fantôme, c'est simplement la trace, on peut dire, psychique en nous de quelque chose qu'il se serait mal passé pour un ancêtre et qui, surtout, n'a pas pu être métabolisé. C'est-à-dire, on parle souvent de secrets, mais il n'y a pas que les secrets. C'est un peu tous les traumatismes de nos ancêtres où il n'y a pas pu avoir de parole, où il n'y a pas pu avoir une sorte de digestion.
Quel type de fantômes, généralement, trouve-t-on dans les familles ?
Alors, il y en a énormément. Moi, je peux vous en dresser une liste énorme. Mais on peut dire qu'il y a des fantômes très courants. Les plus grands fantômes sont les fantômes d'enfants morts. C'est-à-dire que ce sont ceux qui empoisonnent vraiment les familles. Dans les fantômes d'enfants morts, vous avez les morts-nés et puis les enfants morts jeunes. Ça peut aller jusqu'aux enfants qui sont morts à vers 18-20 ans. Ça, ce sont les grands fantômes. Mais il y a toutes sortes de fantômes. Il y a les secrets sur la paternité sont des choses extrêmement importantes dans les lignées. C'est-à-dire que ça se voit toujours, ça se paye toujours. Hein. C'est-à-dire que s'il y a un secret de paternité, à un moment, il va y avoir une trace psychique chez un descendant assez violente. Et là, c'est là que c'est très intéressant. C'est que toutes les personnes que j'ai rencontrées, par exemple, dont le père n'était pas le père, le savait. Ils diront toujours « je le savais depuis le début ». Mais
quelque part, je le savais.
Quelque part, je le savais. Donc, on le sait, mais ça fait par exemple des fantômes. Et puis, vous avez des fantômes sur... moi, j'ai beaucoup travaillé sur les fantômes d'avortement. Tous les avortements anciens, on a occulté ça, alors que si on regarde les études historiques, il y avait énormément d'avortements et même d'infanticides. Tout ça, ça fait des fantômes. Ça fait des choses qui sont dans les lignées. Alors, les infanticides, il y en avait énormément.
Il y a aussi des traumatismes dont on parle, les suicides qui sont parfois maquillés d'ailleurs, hein, pour que voilà, ce soit plus honorable. Quelqu'un qui fait de la prison, les meurtres aussi.
Tout ça.
Alors ça, c'est plus grave peut-être.
Tout ça, mais tout ça quand ça a été caché. Si vous avez un meurtrier dans une famille et puis qu'il a été condamné, ça fait pas un fantôme. Si en plus on lui a redonné sa place, c'est toujours l'endroit où c'est caché, où c'est omis, où ça va être tué. Que à ce moment-là, ça fait fantôme.
Donc il y a un traumatisme vécu à une génération, faute d'avoir été parlé, faute d'avoir été symbolisé, d'avoir été pensé, ce traumatisme va se transmettre dans l'arbre des descendants.
Voilà. Et de génération en génération, et donc il y a des... En psychogénéalogie, par exemple, on parle beaucoup de patates chaudes, mais moi je parle de grenades, c'est-à-dire que c'est pas une patate chaude, c'est vraiment une grenade où j'ai souvent la meilleure image que j'aurais, ça serait un tremblement de terre, un tsunami. Le fantôme, c'est un tsunami, non? Si vous avez un tremblement de terre à une génération, et puis vous avez rien pendant deux, trois générations, et vous avez un tsunami à une génération actuelle, par exemple, et la difficulté, c'est qu'entre les deux, il ne s'est rien passé. Vous voyez, comme l'onde qui passe sous la mer.
Voilà, c'est-à-dire qu'il y a eu un trauma, et puis, petit à petit, il y a le calme, qui semble le calme, et puis, en fait, souterrainement, il y a une espèce d'énorme vague qui va se propager sur les générations suivantes.
Et du coup, c'est ce côté très mystérieux, on ne comprend pas, moi, je pense qu'on commence à comprendre comment ça fonctionne, mais c'est mystérieux, puisqu'on ne peut pas faire le rapport entre ce qu'il y a aujourd'hui et ce qu'il y avait il y a trois générations, par exemple, ou quatre. Voire plus.
Mais comment vous expliquez ce mécanisme inconscient qui fait qu'un traumatisme mis sous silence, va se répercuter? Qu'est-ce qui se passe là au niveau psychique?
Alors moi, ce que j'ai étudié, puis en référence à quelques personnes qui ont étudié ça, moi j'ai un concept que je développe, qui est le concept d'expulsion. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un traumatisme, souvent énorme, et énorme suivant la personne, mais souvent ça va être un traumatisme énorme, la personne qui subit le traumatisme est en incapacité de le gérer. Et un des mécanismes qu'on connaît bien, c'est une sorte, mais moi j'appelle ça l'expulsion, parce que c'est pas simplement, ça va pas être le déni, ça va pas simplement être le fait que ça passe à la trappe pour la personne, mais qu'il y a une vraie expulsion, c'est-à-dire que c'est l'un des enfants qui va prendre ce trauma, qui va prendre toute l'émotion, et qui va en plus la transmettre. Et c'est ce mécanisme-là, ça marche comme ça, c'est comme une expulsion.
C'est-à-dire que si c'est le père qui a subi le traumatisme, c'est l'enfant qui va le reprendre?
Oui, c'est-à-dire, par exemple, si vous prenez le cas d'un enfant mort, c'est vraiment un des cas les plus classiques, c'est souvent par rapport aux mères, c'est-à-dire que c'est absolument impossible pour une mère, bon, pour un père aussi, mais la mort, c'est inconcevable, la mort d'un enfant. À ce moment-là, il va y avoir un traumatisme chez le parent, mais le parent, pour pouvoir survivre, à la limite, va en faire pratiquement un non-événement. À ce moment-là, l'enfant survivant, le frère ou la sœur, va porter le fantôme. Mais ça peut aller très loin. J'ai même vu avec des cousins ou des cousines qui portent à ce moment-là le trauma de la mère. Et la mère, à ce moment-là, est comme déchargée. C'est-à-dire, elle peut continuer à vivre. Alors, elle vit... elle va souvent se couper de ses émotions, par exemple. C'est comme ça qu'on reconnaît la trace d'un fantôme. Et cette émotion... là va être transmise. Elle va être transmise par un certain nombre de signaux comme dont vous avez parlé, mais aussi par des non-signaux, je dirais, par quelque chose qui est beaucoup plus complexe et qui fait que moi je travaille avec des bébés qui portent des fantômes. Vous voyez, donc là il n'y a pas eu de signal ni verbal ni c'est autre chose.
Et vous arrivez à voir chez un bébé qui va mal, sûrement.
Oui.
Quelque chose de l'ordre d'une transmission.
Alors sur les bébés, je vous dirais jusqu'à présent, j'ai pris par exemple des enfants de 20 ans à peu près. Hein. Mais un enfant de 1 an, il m'arrivait vraiment d'avoir des guérisons spectaculaires de symptômes, tout simplement en leur parlant. Hein. En parlant à l'enfant, par exemple, en présence de sa mère, de ce qui va hanter la lignée de sa mère et qui apparaît dans ses symptômes.
Parce que vous avez parlé avec la mère, vous allez parler, refaire la généalogie, essayer de comprendre ce qu'il y a eu dans l'arbre.
Voilà.
De traumatique.
Voilà, j'ai l'exemple comme ça d'une petite fille qui ne pouvait même pas se mettre à quatre pattes. Et elle portait vraiment le fantôme de son arrière-grand-mère. Et a priori, on a à peu près compris que c'était un enfant mort en premier et qui était sûrement handicapé. Donc cette petite fille s'identifiait à cette petite fille morte trois générations avant elle et qui avait été handicapée. Donc elle ne pouvait pas marcher. À partir du moment où on a parlé de ça, elle s'est mise à quatre pattes. Et ensuite, 6 mois après, j'ai revu cette petite fille qui ne pouvait pas marcher là sur deux pattes. Et on a continué sur cette question de fantôme et elle devait être opérée et elle n'a pas été opérée. C'est-à-dire depuis elle marche.
Repère RCF. Bruno Clavier, avec vous, nous parlons de la psychanalyse transgénérationnelle. Vous travaillez sur les arbres généalogiques avec les adultes, mais aussi les enfants. Et justement, vous racontez dans le livre beaucoup, beaucoup d'histoires. Vous recevez, par exemple, des enfants qui entendent des voix, d'autres qui ont des visions. Alors, on pourrait poser un diagnostic enfant délirant. Et vous dites, allons voir du côté des ancêtres.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que je pense que, enfin, moi, maintenant, j'en suis arrivé à une théorie où on peut dire que la psychose, c'est un fantôme. Pour moi, la psychose de l'adulte, c'est vraiment toujours un fantôme. Alors, quand on a des enfants comme ça, voire des adolescents, j'ai reçu des adolescents aussi qui avaient des voix et tout, qui vont soigner ces symptômes-là et guérir, vraiment, dès qu'on on s'aperçoit de quel ancêtre il s'agit, qu'est-ce qui s'est passé avant.
Voilà. Mais par exemple, donnez-nous un exemple d'un enfant qui aurait des voix ou des visions, comme vous dites dans le livre, et puis qui, grâce à vous, va retrouver peut-être la trace dans son histoire de quelque chose qui a été tué et qui l'habite à son insu.
Oui, alors j'ai beaucoup d'exemples, mais j'avais l'exemple d'un enfant comme ça qui avait vraiment une voix dans sa tête qui lui disait, j'en parle dans le livre, hein, qui lui disait de faire des mauvaises choses. Et en fait, il était vraiment, on va dire, habité par un grand-oncle. Lui, c'était un grand-oncle qu'il ne connaissait pas et dont, une fois qu'il a appris l'histoire de ce grand-oncle en présence de sa mère, c'était un grand-oncle maternel, il a absolument arrêté d'avoir cette voix dans la tête. Mais cette voix dans la tête, l'enfant me l'a décrit, puisque moi, quand c'est comme ça, je demande, mais qui c'est? Est-ce que c'est un homme, une femme? Est-ce que, quel âge il a pour toi?
Qui te parle, en fait?
Voilà. Hein. Et il m'a dit, c'est quelqu'un qui a à peu près 20 ans. C'est comme ça. J'ai énormément d'exemples comme ça.
Et qu'est-ce qui s'était passé avec cet oncle-là?
Eh ben, cet oncle-là s'était tiré, en fait, il avait fait la guerre, la première guerre, c'est la guerre du d'Indochine, voilà, c'est ça. Il rentre de la guerre d'Indochine et son père lui dit, tu repars en Algérie. Et en fait, il était très, très obéissant à son père. Il part en Algérie et 3 jours après, il se suicide d'une balle dans la tête. Et cet enfant avait toujours mal à la tête. Et il disait, si le monsieur me dit de faire des bêtises, sinon j'ai mal à la tête. Et alors, c'est quand il m'a parlé de cet homme et qu'il m'a dit à peu près son âge que j'ai regardé l'arbre généalogique et j'ai vu, évidemment, moi j'avais l'intuition qu'il y avait un gros traumatisme. Et en fait, cet enfant était identifié à son grand-oncle et donc s'il obéissait, il allait mourir comme son grand-oncle. Donc il fallait qu'il désobéisse et qu'il fasse des mauvaises choses. Et une fois qu'on lui a parlé de ça, eh bien c'était fini. Cet enfant s'est même mis à pleurer, ce qui est un signe souvent quand on travaille comme ça, il s'est mis à pleurer et puis du coup... voilà, on lui a parlé de son grand-oncle et c'était fini, il n'y avait plus de voix dans la tête.
Vous recevez beaucoup d'enfants, vous racontez d'ailleurs dans votre livre comment ça se passe. Alors, vous écoutez l'enfant en présence des parents généralement, vous pouvez faire dessiner.
Je regarde le dessin, il me fait toujours un premier dessin où il y a la clé, toujours. Le premier dessin qu'il me fait d'avance, c'est-à-dire je dis aux parents au téléphone, vous direz à votre enfant qu'il me fasse un dessin, qu'il me fasse le dessin de ce qui ne va pas. Et quand il fait le dessin de ce qui ne va pas, il y a toujours la clé dedans, mais elle n'est pas facile à trouver.
Oui, mais là, vous êtes un fils spirituel de Dolto.
Ah, tout à fait, moi je suis un emprunt des enseignements de Dolto totalement. Ouais.
Françoise Dolto qui parlait aux enfants, mais qui les faisait aussi dessiner, et qui mettait l'accent sur l'histoire de la famille.
Oui, pareil, c'est vraiment une filiation par rapport à Dolto, sauf que moi j'essaye vraiment de systématiser ce qu'elle a fait.
Vous dites qu'il y a deux sujets de préoccupation très importants chez l'enfant, la question des origines, d'où je viens, et la question de l'après-vie. Où est-ce que je vais? Donc la mort. Donc l'enfant, il touche bien là à l'arbre généalogique en se demandant d'où il vient. Et puis peut-être plus tard, je vais donner la vie, je vais partir. Et donc voilà, il y aura des gens, je serai plus là. Enfin, il se pose toutes ces questions-là.
Je dirais même que un enfant de 3-4 ans, par exemple, il n'y a que ça qui l'intéresse. C'est la vie et la mort. Et si on l'entend pas sur ces deux questions, et la vie implique la sexualité, si on l'entend pas sur ces questions sur la sexualité et sur la mort, il va faire des symptômes. Donc c'est extrêmement important, et la question de la mort est extrêmement importante avec les enfants. C'est une question vitale pour eux, justement, de savoir qu'est-ce que c'est la mort, et ou au moins qu'est-ce que leurs parents en pensent. Et c'est pour ça que ça engage la notion du spirituel. On ne peut pas, moi, c'est pour ça que j'ai un chapitre où je dis les enfants sont hautement spirituels, mais c'est la question du spirituel dans le sens où pour un enfant c'est inconcevable de mourir et puis c'est tout. C'est pas comme ça qu'il l'entend. L'immortalité est inscrite chez l'enfant et elle est même inscrite chez l'adulte dans l'inconscient, une fois encore. Et c'est comment on peut donner, moi je dirais, du souffle à l'enfant, il a besoin de ça. Pour aller en avant, il a besoin qu'on lui dise que c'est jamais fini d'une certaine façon.
Mais alors, quand il y a eu un traumatisme et qu'on le connaît dans la famille, il faut raconter à l'enfant, très jeune?
C'est-à-dire que je pense vraiment, au moment du traumatisme, il faut absolument le raconter.
L'informer.
Et il faut l'informer parce qu'il sait. Alors, c'est-à-dire, c'est vraiment une autre notion qui venait de Françoise Dolto, mais que j'ai vérifiée totalement, c'est que les enfants sont télépathes. Ils savent tout. ils captent. Ils savent pas ce qu'ils savent, mais ils captent tout. Donc si on leur dit pas ce qu'ils captent, ils font des symptômes. Parce que eux, ils le savent, ils en sont très très persuadés. Mais on leur dit pas ce qu'ils savent. Donc du coup, ils vont pas bien.
Vous dites, il faut leur dire ce qu'ils captent, c'est-à-dire mettre des mots, parce qu'ils n'ont pas forcément les mots pour le dire.
Voilà.
Sentir, là, il est en train de capter ça. Par exemple, la petite sœur qu'on devait avoir est morte.
Voilà, par exemple.
Je vais te dire des mots sur son ressenti.
Exactement. Et c'est pour ça qu'il les capte tellement qu'on les voit dans les dessins. Moi, dans les dessins des enfants, je vois toutes les fausses couches, tous les avortements, tous les enfants. Enfin, ils dessinent tout. Donc c'est en eux, c'est vraiment eux.
Oui, mais alors souvent on dit pas parce qu'on veut protéger l'enfant. Et d'ailleurs dans les générations passées, c'était très très important cette idée qu'il fallait pas faire de bruit, il fallait voilà.
Oui, mais tout à fait, mais c'est parce que c'est quelque chose qui est de l'ordre du statut de l'enfant, c'est-à-dire que l'enfant est extrêmement intelligent et la seule question c'est qu'il a un développement moteur qui est très en décalage par rapport à son intelligence. Donc du coup, on se fie à son développement moteur. Un bébé par exemple, on se rend pas compte de l'intelligence prodigieuse qu'il a, mais en même temps, il a pas le développement moteur qui va avec. Donc il a besoin qu'on lui parle. Quand Dolto disait on parle au bébé, mais c'est extrêmement important parce qu'il comprend tout. Un bébé comprend. Il comprend à sa façon, mais il comprend.
Oui, c'est-à-dire qu'il comprend pas notre langage, notre grammaire d'adulte.
Oui, mais il comprend toutes les émotions qu'on va lui transmettre et il comprend même presque tout.
Repère RCF. Bruno Clavier, nous parlons avec vous des fantômes qui peuvent hanter les familles. Généralement, c'est un traumatisme qui n'a pas été digéré à une génération et qui va se transmettre à une autre. Parmi les traumatismes, on n'en a pas encore parlé, il y a l'inceste. Et vous en parlez dans votre livre. Et vous dites que ce comportement révèle moins, selon vous, une question d'ordre sexuel, mais plus une angoisse de la mort, une angoisse de la perte.
Oui.
Qu'est-ce que vous voulez dire ?
Ben, c'est-à-dire que l'inceste, en gros, c'est un repli vers l'intérieur. L'inceste, c'est une sorte d'attitude qu'on retrouve alors dans ce qu'on appelle l'incestuel. Ce sont des formes d'inceste. Mais on peut dire que dans l'incestuel, on peut mettre le fait que il y a des choses dans les traditions qui sont incestuelles. Dans les traditions, par exemple, on peut dire on reste entre nous. Ça, c'est de l'incestuel. Mais rester entre nous, c'est donc ce manque d'ouverture qui provient de la peur de la perte. Par exemple, on peut avoir peur de perdre des biens, et du coup on va faire en sorte que les biens restent entre nous, et on va se cousiner, on va se marier entre cousins, on va ainsi de suite. L'inceste, c'est le même phénomène, c'est-à-dire que c'est pas une question sexuelle, c'est vraiment une question, enfin je le dis dans le livre, si un homme, un père inceste sa fille, c'est pour pas mourir. C'est-à-dire que s'il inceste sa fille, elle est plus sa fille.
C'est-à-dire qu'il barre la succession des générations.
Exactement.
Il veut l'occulter.
L'interdit de l'inceste, ça veut donc dire qu'il y a deux générations et qu'il y a plusieurs générations et qu'il y a la mort. La mort derrière, c'est-à-dire, on le sait quand on est parent, c'est-à-dire on pense que son enfant nous succédera plus tard. La mort est inscrite dedans. Et incester, c'est nier la mort.
Et c'est
vraiment aussi
se replier sur soi.
Et c'est l'effacement vraiment des générations. C'est-à-dire que dans l'inceste, il y a une sorte de mouvement naturel qui fait qu'il y a une énergie du parent qui va vers l'enfant. Et dans l'inceste, c'est le contraire. C'est-à-dire, le parent demande de l'énergie à l'enfant. Il lui demande de la vie.
Alors c'est lui le donateur, normalement.
Et oui. C'est-à-dire que, et c'est vraiment parce qu'il a un endroit, il se retourne. Moi j'ai l'image, on va vers l'avant, tous, et puis, et on va vers une espèce de couloir. Et là, dans l'inceste, on se retourne de l'autre côté. On essaye de retourner le temps en sens inverse. Et ce qui fait que la caractéristique de toutes les personnes incestées, c'est qu'elles sont bloquées sur place. Elles peuvent plus avancer. Mais ce que je sais, c'est que c'est toujours la répétition de quelque chose. Un inceste aujourd'hui il y a toujours eu un inceste antérieur, d'une façon ou d'une autre.
Ah oui, et que ça se transmet là encore de génération.
Ça se transmet, voilà, de génération en génération, et ça c'est caractéristique. Il y a des familles très incestueuses, vous en retrouvez presque à tous les étages, quoi.
Justement, quand vous parlez de la répétition, c'est intéressant parce que vous dites que dès qu'il y a quelque chose qui se répète dans une famille sur plusieurs générations, là on peut se dire que il y aurait un fantôme ou un secret.
Tout à fait. Dès qu'il y a une répétition. C'est un signe. Il faut bien comprendre que dans la théorie freudienne, c'est là-dessus que Freud bute. Freud va partir sur le principe du plaisir. Et dans son livre Au-delà du principe du plaisir, il dit oui. Et ça, c'est la suite à la guerre 14. Suite à la guerre 14, il s'aperçoit qu'on répète le trauma. Et ça, c'est une grande question que se pose Freud. Il dit pourquoi on répète le trauma? Pourquoi chaque nuit, les mutilés de la guerre 14 rêvent-ils de leur accident? Pourquoi? Quel intérêt? Et il s'est vraiment posé cette question. Freud, lui, à ce moment-là, invente la pulsion de mort. Alors que un certain nombre de personnes, enfin dont moi, enfin on pense que c'est pas la pulsion de mort, c'est le fantôme. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y a répétition, il y a fantôme, il y a quelque chose qui vient hanter.
Et donc on peut se dire que toutes les familles sont concernées.
Alors on peut dire ça, mais elles sont plus ou moins concernées. Alors on est vivant aujourd'hui par tout l'apport merveilleux de nos familles, sinon on serait pas là tous. Donc, mais ça, j'en parle pas parce que c'est pas mon métier. Moi, je parle pas des gens qui vont bien.
Vous parlez de ce qui va mal.
Bah oui, je parle de ce qui va mal. Donc, moi, je parle des fantômes, je vois ce qui peut aller mal dans les familles. Maintenant, il y a des familles plus ou moins avec des fantômes plus ou moins. Mais tout ça, c'est quelque chose qui est au milieu de transmissions, d'autres transmissions très positives et très bonnes.
Oui, d'ailleurs, dans votre livre, vous dites qu'on n'est pas en train de regarder l'arbre généalogique pour condamner les ancêtres. C'est pas du tout la démarche. Ouais. C'est plutôt de comprendre ce qui s'est passé.
Il faut vraiment comprendre. Alors souvent, il y a cette idée qui, dans ce travail-là, amène beaucoup de difficultés. C'est en gros, je veux pas embêter mes parents. Je vais pas aller leur chercher des poux,
leur
poser des questions et tout ça. Et puis, on veut surtout pas les condamner. C'est-à-dire, on oublie à quel point les enfants veulent protéger leurs parents. C'est fondamental pour des enfants de protéger leurs parents. Or, le transgénérationnel, c'est presque remonter à une faute originelle. C'est-à-dire que de toute façon, les parents ont pas pu faire autre chose que ce qu'on, moi je dis toujours, on ne donne que ce qu'on nous a donné. On n'est pas capable, à moins d'avoir fait un grand travail, spontanément, on ne donnera que ce qu'on a eu. Vous avez quelqu'un à qui on n'a pas donné d'amour et avoir du mal à donner de l'amour. Ou alors il va en donner trop, ce qui va revenir à peu près à la même chose. Sauf si, effectivement, on a travaillé là-dessus et sauf si on a essayé de comprendre nos ancêtres. Et les comprendre, c'est absolument les aimer. Mais c'est sûr, ils ont été humains comme nous avec leurs faiblesses. Mais il ne faut pas se fermer les yeux là-dessus.
C'est-à-dire voir les actes qui ont eu lieu.
Oui.
Se dire qu'il n'y a pas eu la possibilité pour eux de faire autrement.
Voilà.
Que ce qu'ils ont fait. Et par contre, essayer de, fort de cette connaissance sur l'arbre généalogique, essayer de vivre autrement.
Ben oui, tout à fait. Le but est vraiment de pacifier ce qui est familial. Mais il y a quelque chose qui est intermédiaire, qui est la façon de quand même voir ce qui s'est passé et ce qui s'est mal passé avant. Parce qu'on ne peut pas faire autrement.
Mais allez voir ce qui s'est passé avant, Bruno Clavier. Quand on a très peu de renseignements sur ses ancêtres, sa généalogie, comment faire?
En ce qui concerne des symptômes majeurs, quand je parle par exemple pour les enfants, on a toujours trouvé, parce que c'est pas très très loin. Et on le sait, ça. En gros, on le sait, ou plus ou moins, on le sait pas. Ensuite, bah, il y a des, par exemple, quand on travaille avec des adultes, c'est de faire des arbres très très complets, parfois qu'on monte jusqu'à 6 ou 7 générations, et ce sont les dates et les noms qui vont parler. C'est-à-dire, si on sait pas ce qui s'est passé, les dates et les noms vont parler.
Ah bon? De quelle manière, alors?
Bah, par exemple, vous allez voir, dans un arbre, vous allez voir une répétition. Toutes les femmes se marient enceintes. On le voit avec les actes. Vous regardez, puis vous dites, ah tiens, elle s'est mariée
enceinte.
On fait le calcul. Vous voyez la date de naissance du premier enfant, vous regardez la date de mariage, vous dites, ah c'est bizarre, elle s'est mariée à 6 mois. Bon, ça signifie toujours quelque chose. Si en plus vous le voyez à chaque génération, c'est quelque chose de très particulier. Ça signale un peu un fantôme. Qu'est-ce qui se passe là? Alors après, il faut essayer de comprendre.
Oui, donc sans avoir la nature des traumas exacts, on peut essayer avec des dates de...
Des dates ou des noms où vous allez avoir, par exemple, vous avez un enfant, je vais prendre un exemple, il commence, un enfant qui... C'est l'aîné, il s'appelle Auguste, il meurt. Après, vous avez une fille qui vient 2 ans après, on l'appelle Augustine. Il y a une trace, il y a quelque chose dit. On voit bien qu'il y a une trace. Alors ça peut être une... des gens disent oui, c'était dans la région, on redonnait toujours le nom. Oui et non, c'est-à-dire on le voit. Et quand vous voyez qu'en plus le prénom va être redonné ou ainsi de suite, vous vous dites, oh là là, il y a quelque chose qui persiste. Il y a quelque chose qui... Comme les lapsus un peu, vous voyez, vous vous dites, tiens...
C'est du signifiant. En termes psychanalytiques,
c'est qu'est-ce qui se passe? C'est comme un lapsus, mais c'est un lapsus dans l'arbre généalogique.
Merci à vous, en tout cas, Bruno Clavier, d'être venu nous parler de ses ancêtres, de ce qui se cache parfois dans l'arbre généalogique. Votre livre s'intitule « Les fantômes familiaux », il est paru chez Payot. Merci à Pierre-Henri Paget à la réalisation technique.